en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Comprendre la douleur pour la maîtriser, c'était le thème général d'une séance complète à l'Académie des sciences en mai 2009 à l'Institut de France. Canal Académie retransmet les grands moments de cette séance en quatre parties. Dans le premier volet, Bernard Calvino présentait les circuits qui véhiculent le message douloureux et Michel Lasdunski s'intéressait aux mécanismes qui le génèrent au niveau de cibles spécialisées dénommées nocicepteurs. Le deuxième volet était consacré à la manière dont est vécue la douleur, y compris celle dite psychosomatique, quelquefois considérée à tort comme imaginaire. Écoutez dans ce troisième volet les nouveaux progrès en matière de lutte contre la douleur, car le traitement de la douleur a longtemps été considéré comme secondaire en France. Aujourd'hui, les médecins s'en préoccupent, mais ils ne savent pas toujours contrer de fortes céphalées ou encore résoudre les problèmes de fibromyalgie, pour ne citer que deux exemples. De nouveaux essais sont en cours, la possibilité de bloquer plusieurs récepteurs tout d'abord, mais également utiliser des opioïdes endogènes pour réduire les influx nociceptifs. Détail en compagnie de Bernard Roque et Joël Bockert. Bernard Roque est membre de l'Académie des sciences, professeur émérite de l'Université Paris-Descartes. Il s'intéresse à la régulation et au contrôle de la nociception par les systèmes opioïdes. Joël Bockert est également membre de l'Académie des sciences, membre de l'Institut de génomique fonctionnelle à l'Université de Montpellier. Sa communication porte sur les récepteurs couplés aux protéines G, sorte de modulateur des douleurs chroniques. Tout de suite, Bernard Roque.
Alors, actuellement, dans les stratégies de développement de nouveaux analgésiques, et Michel Lasdunski l'a très bien montré ce matin, la plupart des cibles qui sont visées sont des cibles qui sont constituées par des canaux, également par d'autres types de récepteurs, et Joël Bockert en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas s'il parlera des récepteurs à l'anandamide, par exemple, des récepteurs cannabinoïdes, mais relativement peu de travaux sont effectués sur des molécules qui agiraient directement sur le système de contrôle par les opioïdes endogènes, donc les morphines internes, et c'est ce qui nous a intéressés. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir de synthétiser des molécules chimiques ciblant ces différentes molécules dont je parlais tout à l'heure, on s'est intéressé au système des opioïdes endogènes. Alors, on a beaucoup parlé de lui sans vraiment le définir. Eh bien, on va répondre aux questions suivantes. Comment fonctionnent nos morphines internes ou endorphines? Quel est leur système de régulation? Et peut-on les utiliser pour développer une nouvelle voie plus physiologique dans l'analgésie, en particulier pour diminuer les douleurs neuropathiques et inflammatoires? Alors, voici très schématiquement comment est constitué le système opioïde. Vous avez ici les récepteurs. Vous savez que le jour où on a découvert que la morphine était un analgésique puissant, on a évidemment essayé de découvrir les cibles sur lesquelles interagissait cette morphine. Et on a découvert, dans les années 73, les récepteurs mu et delta, qui sont des récepteurs couplés aux protéines G, et Joël en parlera tout à l'heure. Évidemment, s'il existe des récepteurs internes, mu et delta, c'est qu'il existe des effecteurs endogènes, des effecteurs naturels. Et ces effecteurs, ce sont ces deux petits peptides qu'on appelle encéphalines, la méthenképhaline et la leuencéphaline, mais qui sont constitués par une succession de 5 aminoacides. Alors, quand on regarde la liaison de ces encéphalines endogènes, donc ce sont des molécules synthétisées par l'organisme, on s'aperçoit qu'ils ont une affinité aussi grande que la morphine pour récepteurs mu et delta. Et du reste, si on administre de manière exogène, cette fois-ci, une encéphaline synthétique dans un cerveau de rat, par exemple, dans une région bien déterminée, on va obtenir exactement la même réponse analgésique que la morphine, puisque l'affinité de ces encéphalines, de ces morphines internes, est identique, sinon meilleure même que la morphine elle-même. Le seul ennui, c'est qu'on va s'apercevoir très vite que cette analgésie est de très courte durée. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces encéphalines sont détruites très rapidement par deux enzymes, deux peptidases, que sont l'aminopeptidase N et l'endopeptidase neutre, ou NEP. Vous voyez que ces enzymes coupent ici en fabriquant des fragments qui sont incapables de récepteurs, d'interagir plus exactement les récepteurs mu et delta. Donc vous avez compris tout de suite que ce qui allait nous intéresser, c'était ces deux enzymes, de manière à les inhiber et augmenter ainsi la concentration des encéphalines synaptiques, extraneuronales. Alors, ce qui est également important de bien voir, c'est que le système opioïde endogène donc formés par ces encéphalines, les récepteurs et les enzymes du métabolisme, se trouvent aux trois grands niveaux de contrôle de la douleur, c'est-à-dire au niveau des nocicepteurs. Et ceci est une constatation relativement récente. Il y a une quinzaine d'années seulement qu'on s'occupe vraiment des récepteurs opioïdes à la périphérie. On les trouve évidemment, et ça on le sait depuis plus longtemps, dans la corne dorsale de la moelle, et puis évidemment dans le cerveau, dans des structures bien particulières dont on a beaucoup parlé, la substance périducale, le thalamus et les projections dans le cortex. Alors, une première constatation, c'est, au fond, on parle beaucoup de ces endorphines, de ces encéphalines, mais est-ce que réellement elles ont une action physiologique en termes d'analgésie, par exemple? Alors, on a pu démontrer ceci grâce à Andreas Zimmer, dont on a dû parler une fois dans cette session. Andreas Zimmer a fabriqué, entre guillemets, des souris dont le gène qui code pour les encéphalines a été invalidé. Par conséquent, ces souris ne possèdent pas d'encéphaline. Et vous voyez que si on regarde ici la réponse à la douleur, ces souris sont mises sur une plaque chaude et voici ici les souris sauvages. Bien entendu, elles répondent à un temps qui est relativement long. Mais par contre, pour ces souris qui possèdent une mutation et qui ne possèdent donc plus d'encéphaline, il y a une diminution du seuil à la douleur, c'est-à-dire qu'elles réagissent beaucoup plus tôt, elles sautent beaucoup plus tôt, simplement parce que comme elles n'ont plus d'encéphaline, bien sûr, elles sont plus sensibles à la douleur. Et c'est vrai aussi pour ce test, dont je ne parlerai pas, mais qui est un test plus proche des douleurs neuropathiques. Donc cette première démonstration a été importante. Une autre démonstration que nous avons effectuée était de voir s'il y avait une colocalisation des différentes cibles impliquées dans le système opioïde endogène, donc les deux récepteurs dont j'ai parlé, mu et delta, et les deux enzymes dont j'ai parlé, c'est-à-dire la NEP et l'APN. Alors effectivement, ça, ce sont des coupes de cerveau de rat qu'on marque ici avec des molécules extrêmement sélectives pour ces différentes cibles, donc les deux enzymes et les deux récepteurs. Et vous voyez qu'ici, si vous regardez de près, il y a une très bonne cohabitation, si je veux dire colocalisation, de ces quatre cibles du système endogène. Et si vous regardez ici dans la substance périducale, qui est si importante dans le contrôle de la douleur, eh bien vous trouvez les quatre cibles colocalisées. Alors j'ai dit que le système opioïde endogène se trouvait également à la périphérie. C'est un travail qui est déjà beaucoup plus récent. Et ici, c'est une description de 2007. C'est Christopher Stein en Allemagne qui a beaucoup travaillé dans ce domaine et qui a montré, par exemple, chez le rat ici, par immunohistochimie et chez des rats qui ont un certain nombre de traumatismes, par exemple traumatismes articulaires, des ostéoarthrites, des arthrites rhumatoïdes, que vous aviez ici une expression encore augmentée par rapport au contrôle des récepteurs opioïdes. Ici, il s'agit des récepteurs mu, mais c'est vrai aussi pour les récepteurs delta, encore qu'on voit en général beaucoup plus d'hyper-expression des récepteurs mu dans le cas de douleur chez ces animaux. Alors, qu'en est-il maintenant donc des encéphalines à la périphérie, puisque on sait que les récepteurs sont présents. Maintenant, il faut montrer qu'il y a bien des encéphalines présents au même niveau. C'est à nouveau un travail qui a été fait par le groupe de Christopher Stein. Vous voyez ici des leucocytes, des globules blancs, donc, qui sont présents dans un tissu enflammé. Et c'est une expérience in vitro. Et on regarde ici comment ces leucocytes sécrètent des encéphalines. Donc ça, c'est le taux d'encéphaline sécrété. Et vous voyez qu'il va être sécrété de plus en plus fort en fonction de la présence d'une chimiokine particulière. Dans ce cas, les deux chimiokines qui sont ici, une est active, l'autre n'est pas. Et vous verrez tout à l'heure que ces chimiokines sont libérées au moment où il y a, par exemple, une lésion du tissu. Ça, c'est une expérience donc in vitro. Passons maintenant à la même expérience, si je puis dire, mais in vivo. Cette fois-ci, on a administré dans la patte du rat un adjuvant de Freud, qui est un mélange de différentes protéines, qui va conduire à une inflammation très importante de la patte du rat, et donc une douleur de ce rat. La patte est très, très grossie et le rat souffre. Et si vous regardez ici le contrôle, donc ça, c'est la pression. Cette fois-ci, c'est une pression de la patte, dont on vous l'a déjà décrit tout à l'heure. Donc, il va mettre un certain temps pour répondre à cette stimulation nociceptive. Bien entendu, chez le rat dans lequel on a injecté l'adjuvant de Freud, il y a un abaissement très important du niveau de sensation de la douleur. La douleur est ressentie beaucoup plus vivement et pour des pressions beaucoup moins fortes. Exactement comme c'est représenté in vitro, de manière dose dépendante, cette chimioquine est capable de retrouver ici l'animal qui n'a pas été stimulé par l'adjuvant de Freud. Donc il y a une analgésie totale pour cette dose de cette chimioquine. Alors en quoi ceci prouve-t-il qu'il y a une relation avec les encéphalines? Bien, si on transpose cette expérience ici, on voit qu'à 100 nanogrammes intraplantaires, c'est-à-dire dans la patte, cette réponse ici est antagonisée par l'analoxone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'analoxone est un antagoniste, une sorte de bouchon qui va se mettre à l'intérieur du récepteur et qui empêchera des opioïdes endogènes d'interagir. Et vous voyez que dans ce cas-là, on retrouve le contrôle. Les encéphalines sont absolument incapables d'interagir avec le récepteur et on retrouve un rat double. Donc ça, c'est la preuve qu'effectivement, c'était bien les encéphalines qui étaient impliquées. Alors maintenant, sur ce schéma général, que se passe-t-il quand on a un stimulus nociceptif dû à l'endommagement d'un tissu? Ça peut être n'importe quel type d'endommagement, y compris du reste des tumeurs, par exemple. Dans ce cas-là, on a une rupture de la membrane cellulaire et on a les libérations des chimioquines dont je viens de parler précédemment, mais également, et Michel Lasdinsky en a parlé ce matin, des protons, par exemple, des ions H+, qui sont très algogènes, mais également de leucotriènes qui le sont également, inflammatoires, comme la LTB4, enfin, toute une série de substances qui sont algogènes, qui vont provoquer de la douleur. Mais en même temps, les terminaisons ici de ce tissu enflammé vont libérer de la substance P. Cette substance P va provoquer une vasodilatation des vaisseaux périphériques et provoquer une libération d'un certain nombre de facteurs pronociceptifs, donc douloureux, qui vont sensibiliser à la douleur ce tissu. Mais en même temps, il va y avoir diapédèse, comme on dit, c'est-à-dire franchissement des leucocytes qui vont se retrouver dans le tissu. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, les leucocytes sont capables de sécréter des encéphalines. En même temps, il va y avoir un transport rétrograde de ces encéphalines qui vont être sécrétées ici par les terminaisons et une augmentation, et on l'a vu tout à l'heure, de la concentration des récepteurs mu. On a donc ici une sorte de petit système dans lequel on a à la fois les encéphalines qui sont sécrétées par les leucocytes, sécrétées par les terminaisons et les récepteurs qui sont présents. Par conséquent, il va y avoir effectivement une analgésie naturelle, si je puis dire, due à ces encéphalines. Alors je reviens maintenant sur le projet lui-même. Le projet lui-même, c'est d'utiliser évidemment ce système d'inactivation. Et au fond, ce n'est pas tellement différent de ce qui a été fait, par exemple, avec les inhibiteurs d'enzymes de conversion dans le cas du développement de molécules actives sur la tension, l'hypertension. Sauf que là, c'est l'inverse. Dans le cas de l'hypertension, c'était pour protéger, empêcher le passage d'une substance à une autre. Là, c'est pour protéger ces encéphalines et augmenter leur durée d'action et leur concentration. Donc, il s'agissait ici de faire un inhibiteur capable de reconnaître ces deux enzymes et de les inhiber complètement. La chance, c'est qu'effectivement, ces deux peptidases appartiennent au même groupe des méthylopeptidases à zinc, dont vous voyez ici la structure principale, c'est-à-dire le site catalytique dans lequel vous avez l'atome de zinc avec les trois aminoacides ici qui chélatent cet atome de zinc. Ceci nous a beaucoup aidé pour fabriquer, synthétiser des inhibiteurs. En plus, on a été aidé beaucoup plus récemment, du reste, par des collaborations qu'on a eues avec des groupes de cristallographes qui ont pris nos inhibiteurs et qui les ont co-cristallisés. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais évidemment, c'est très informatif. Vous voyez, il y a un groupe au Japon, un groupe en Suède, un groupe en Suisse, qui nous permet d'avoir une vue très, très précise des sites actifs dans lesquels se logent ces différents inhibiteurs. Alors, deux stratégies pour faire des inhibiteurs doubles, mixtes. Une stratégie qui consiste à prendre un inhibiteur de très haute affinité pour l'aminopeptidase N, un inhibiteur de très haute affinité pour la neutralodopeptidase, et les lier tous les deux par un pont disulfure, on va le voir tout à l'heure. Une autre stratégie est de fabriquer une molécule capable de s'adapter au site actif à la fois de l'APN et à la fois de la NEP, et évidemment inhiber le fonctionnement de ces deux enzymes. Alors très rapidement, voilà par exemple une molécule qui est donc formée d'un pont disulfure avec un inhibiteur nanomolaire de l'aminopeptidase N et nanomolaire de l'endopeptidase neutre. Et puis voilà ici l'exemple de deux molécules qui sont des molécules reconnaissant à la fois le site actif de l'endopeptidase neutre et le site actif de l'aminopeptidase N, évidemment nanomolaire également pour ces deux enzymes. Alors, bien sûr, une fois qu'on a eu synthétisé ces molécules, encore fallait-il démontrer qu'elles étaient capables d'augmenter la concentration synaptique extra-neuronale des encéphalines. Alors, vous voyez que c'est des expériences qui sont relativement anciennes. Voilà une molécule qui est donc un inhibiteur double de NEP et d'APN. Quand on l'administre ici par voie IP, intrapéritonéale, vous voyez que par rapport au témoin, par rapport au contrôle, il s'agit d'un rat ici, et ce qu'on fait comme expérience, c'est ce qu'on appelle de la microdialyse, c'est-à-dire qu'on met une canule dans une structure particulière qui est ici le noyau accumbens du cerveau du rat, et on fait passer un liquide et on recueille dans ce liquide les encéphalines qu'on dose. Donc par rapport au contrôle, au témoin ici, vous voyez que l'administration ici par voie IP de cet inhibiteur provoque une augmentation très conséquente du taux d'encéphaline circulant. C'est strictement la même chose, évidemment, pour cet inhibiteur double également, mais qui, lui, n'est pas un inhibiteur à fonction disulfide, mais un inhibiteur mixte qui reconnaît les deux sites actifs en même temps. Et la structure n'est pas la même, puisqu'ici, il s'agit de la substance grise périacducale. Alors, cette expérience est importante. Elle a été effectuée dans le laboratoire de Michel Hamon il y a déjà un certain temps. Et elle montre quelque chose d'important, c'est qu'au fond, ici, il s'agit de la moelle épinière d'un rat qui est superfusée, c'est-à-dire qu'il y a un liquide qui tourne, si je puis dire, autour de la moelle de ce rat et qui est recueilli. Et on regarde quelle est la concentration de ces encéphalines circulantes autour de la moelle épinière. Vous voyez que quand il n'y a aucun traitement, donc le rat est un rat vigile, hein, vous voyez qu'ici, dans le contrôle, vous avez une sécrétion de 4,33 picogrammes par fraction. Ce qui est important, c'est que si vous prenez cet inhibiteur, qui est un inhibiteur double, NEP-APN, vous augmentez d'un facteur 2,5, donc vous avez bien la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais peut-être plus intéressant, c'est que quand vous faites un pincement du museau, on passe d'une situation tonique, naturelle, basale, à une situation phasique. C'est-à-dire que cette fois, la douleur a provoqué la libération d'une quantité beaucoup plus importante d'encéphaline, puisqu'on a plus que doublé la quantité d'encéphaline libérée autour de la moelle. Et bien entendu, si on met le chélateur fond, on a à nouveau la même augmentation de 5, de 2, c'est la même chose. Ça prouve aussi que finalement, on a joué sur la concentration circulante des encéphalines en augmentant cette concentration en protégeant les encéphalines de leur dégradation, mais on ne joue pas évidemment sur la libération, mais simplement sur la protection de ces encéphalines. Dernier contrôle important, en quoi ces inhibiteurs sont-ils sélectifs ou le plus sélectifs possible des encéphalines? Alors là encore, on a eu recours aux souris dans lesquelles il y a une invalidation du gène qui code pour la prépro-encéphaline. Par conséquent, ces souris sont des souris sans encéphaline. Et on va comparer ici la réponse analgésique. Ici, c'est une réponse à la plaque chaude. Je vous ai expliqué tout à l'heure, on place la souris sur la plaque chaude et on mesure le temps qu'elle va mettre pour sauter. Évidemment, quand on met 20 mg kilo par voie IV, on arrive à ce qu'on appelle le cut-off, c'est-à-dire 100% d'analgésie. Vous voyez ici exactement comme avec la morphine du reste. Mais si on prend l'animal qui ne contient plus d'encéphaline, qui ne possède plus d'encéphaline, vous voyez qu'ici, on retombe exactement au niveau du contrôle, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de réponse analgésique, ce qui semble indiquer très nettement que ces inhibiteurs jouent, bien entendu, sur les encéphalines endogènes. Alors, toutes ces expériences avaient été faites pendant une vingtaine d'années et on était arrivé à l'impression qu'il y avait probablement la possibilité de découvrir des molécules intéressantes potentiellement à utiliser en clinique humaine. Et ce qui nous a intéressé, c'était un domaine qui est à couvrir, qui est le domaine des douleurs neuropathiques. Pourquoi ? Ça a déjà été dit, c'est un domaine qui est assez peu couvert, c'est-à-dire que les médicaments qui ont été fabriqués par l'industrie pharmaceutique ne sont pas très actifs et ont des effets secondaires assez importants. Vous voyez qu'ici, on trouve surtout la pregabaline, la gabapentine, la duloxétine. Donc, on s'est intéressé à ce domaine. Et dans la petite société que nous avons formée avec deux de mes collaborateurs quand j'ai quitté l'unité INSERM, nous avons synthétisé cette molécule. Le grand progrès a été que cette molécule possède, bien sûr, une bonne biodisponibilité orale, ce qui n'avait jamais pu être obtenu précédemment. Et comme vous le savez, il n'est pas question de mettre sur le marché une molécule qui ne serait pas active par voie orale. Donc, que faire pour démontrer que cette molécule a un certain intérêt? Eh bien, prendre des modèles dits prédictifs, des modèles animaux dits prédictifs de douleurs neuropathiques ou neuro-inflammatoires. Ils sont listés ici, donc la neuropathie induite par la vincristine, on en a déjà parlé, le rat diabétique, bien connu comme un modèle de neuropathique, la ligature partielle du nerf sciatique, on en a déjà parlé, l'ostéosarcome tibial, dont on va parler dans une minute, et le test à la formaline. Alors, voici donc les deux modèles qui sont un petit peu détaillés. Ça a été un petit peu dit tout à l'heure. Voici ici le modèle dit de Seltzer, c'est-à-dire c'est un modèle dans lequel on a une ligature partielle du nerf sciatique. Elle n'est pas totale, elle est partielle. Ceci provoque une neuropathie très importante de la souris ou du rat. Et nous avons travaillé, c'est Elisabeth Bonnard dans le laboratoire qui a effectué ces expériences chez la souris. Par contre, ici, il s'agit d'expériences dans lesquelles le tibia, ici, la moelle tibiale, a été injectée par des cellules tumorales, des cellules d'ostéosarcome, ce qui provoque évidemment une douleur neuropathique. Et dans les deux cas, on a comme contrôle la patte non lésée, aussi bien dans le modèle de Seltzer que dans le modèle d'ostéosarcome tibial. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tester ces animaux pour leur sensibilité à la douleur, soit en utilisant un test thermique, soit en utilisant un test mécanique, c'est-à-dire la pression de la patte. Que se passe-t-il? Alors, ce travail sur l'ostéosarcome tibial a été effectué dans le laboratoire d'Anna Bahamonde en Espagne. Et vous voyez ici, ici, le contrôle qui est la patte non lésée, et ça, c'est le seuil de réponse à une stimulation thermique. Et voici ce qui se passe au temps zéro, c'est-à-dire juste après l'injection de l'inhibiteur. Vous voyez qu'on a un abaissement très significatif du seuil de réponse à la douleur. Bien entendu, l'animal souffre beaucoup plus de sa patte qui a été lésée que la patte non lésée. Et vous voyez qu'à 25 mg kilo, même déjà à 12,5 mg kilo, on a une réponse importante, puisque ici, on retrouve la valeur de la patte non lésée. Ce qui était intéressant de constater, c'est qu'en fait, cette réponse est antagonisée. Je vous ai dit ce que c'était qu'un antagonisme tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Mais cet antagoniste, ça n'est plus l'analoxone, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle le méthylnaloxonium. C'est quoi? C'est une molécule qui est incapable de pénétrer dans le cerveau. Par conséquent, vous voyez que par rapport à cette valeur analgésique, eh bien, si on fait une administration de méthylnaloxonium, on retombe sur l'état douloureux, c'est-à-dire ici. Par conséquent, on a antagonisé la réponse, mais cette réponse ne peut être qu'une réponse périphérique puisque cet antagoniste ne pénètre pas dans le cerveau. Une autre constatation qui a été faite, c'est que la gabaline et la pré-gabaline, la gabapentine, pardon, et la pré-gabaline dont je parlais tout à l'heure, est active, bien sûr, mais elle est active par voie sous-cutanée à des doses élevées. Vous voyez qu'à ces doses très faibles, ici, 6,5 mg par kilogramme, et ici, l'inhibiteur, qui est ici le PL37, qui est un inhibiteur à fonction thiol, à 12,5 mg, ne donne pas... À 6,5, excusez-moi, je vais y arriver, 12,5, pardon, ici, ne donne pas de réponse très nette. Par contre, si on mélange les deux, alors on voit qu'ici, on retombe exactement sur le contrôle, c'est-à-dire la patte qui n'a pas été lésée. Donc, on a une analgésie quasi totale. On a pu regarder en fonction des concentrations relatives de l'une et d'autres substances, et ceci permet de montrer qu'on a une potentialisation synergique ou synergistique, et ceci est analysé par une courbe particulière qu'on appelle l'analyse isobolographique. Alors, ceci, c'est le test donc constriction du nerf sciatique. Ces expériences ont été faites donc par Elisabeth Bonnard, comme j'ai dit tout à l'heure, et vous voyez que ici, par rapport à la patte contrôle, ici, contralatérale, ici, c'est le temps de réponse. Dans ce test, le plantar test, on a un abaissement du seuil de la réponse à la nociception, très important. Et vous voyez qu'en fonction de la dose de cet inhibiteur mixte NEP-APN, on retrouve pratiquement le contrôle, la patte contralatérale. Alors, le plantar test, c'est un test qui mesure l'hyperalgésie, la réponse hyperalgésique, alors que le test de Von Frey qui est un test mécanique dans lequel on utilise des filaments de dureté de plus en plus grande, on teste ce qu'on appelle l'allodynie. C'est quoi l'allodynie ? C'est la douleur qui a lieu, si je puis dire, dans un endroit où il n'y a a priori aucune raison qu'il y ait de nociception, et qui est une caractéristique des douleurs neuropathiques. Et vous voyez que là encore, de manière dose-dépendante, et pendant un temps long, on a ici une réponse, puisqu'on a un abaissement ici du seuil de la perception douloureuse, et on va revenir, en fonction de la dose, au contrôle, c'est-à-dire à la patte qui est non lésée. Alors, il était évidemment important également de regarder ce qui pouvait se passer en termes de tolérance. Alors, on sait bien que les traitements chroniques à la morphine entraînent un phénomène très connu, qui est le phénomène de tolérance, qui oblige petit à petit à utiliser des doses de plus en plus grandes de morphine et quelquefois aussi à finir par avoir une insensibilité à l'action analgésique de la morphine. Alors, dans le cas des inhibiteurs, cette expérience, toujours faite par Elisabeth, a consisté à traiter ici une souris pendant 13 jours. Le premier jour, on fait un premier test, et puis 13 jours après, on fait un autre test avec donc cet inhibiteur. Mais entre les deux, pendant 12 jours, on administre chaque jour 50 mg kilo par jour de cet inhibiteur. Si on fait ça avec la morphine, on a évidemment un abaissement, on va le voir tout à l'heure, on a un abaissement très significatif de la réponse. Vous voyez qu'ici, il n'y a absolument aucune différence, donc il n'y a pas de tolérance à l'effet de cet inhibiteur. C'est à peu près la même expérience qui a été faite là, mais cette fois-ci par voie intraveineuse. C'est une expérience un petit peu plus complexe, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Ici, on fait une administration de l'inhibiteur, c'est toujours le PL37 dont vous avez vu la formule tout à l'heure, et ici, c'est la morphine. Donc, je ne me souviens plus très bien des doses, mais peu importe, vous avez une réponse analgésique par rapport au contrôle, à la fois pour cet inhibiteur mix, à la fois pour la morphine. Et puis, vous traitez ces animaux, ici il s'agit de souris, par le sérum physiologique pendant 4 jours, autant je me souvienne, et le cinquième jour, vous refaites l'expérience. Et dans ce cas-là, vous avez effectivement un contrôle qui n'a pas bougé. Maintenant, si on remplace le sérum physiologique par la morphine, eh bien, au bout du cinquième jour, quand on fait l'expérience, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de modification ou pratiquement pas de modification pour la réponse à l'inhibiteur mix, mais par contre, il y a une diminution qui était du reste attendue de la réponse à la morphine. Donc, on prouve à nouveau qu'il n'y a pas de tolérance et qu'il n'y a pas de tolérance croisée en plus avec la morphine. Alors, on peut refaire la même expérience, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que toujours le même contrôle avec le sérum physiologique, mais cette fois-ci, on fait un traitement chronique, non plus avec la morphine, mais avec l'inhibiteur, et on regarde ce qui va se passer le cinquième jour. Et vous voyez que, bon, il y a une petite tolérance quand même, là, dans ce cas-là, précis, on ne l'avait pas tout à l'heure, on l'a un tout petit peu ici, elle est très légère, elle n'est pas significative, elle existe quand même un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la morphine, elle, a gardé complètement son pouvoir analgésique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tolérance croisée entre un traitement chronique avec cet inhibiteur et un traitement soudain, si je puis dire, final, par la morphine. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien alterner un traitement par cet inhibiteur avec un traitement avec des faibles doses de morphine, par exemple. Tout de suite, aller vers les dernières expériences qui ont été faites sous l'autorité du docteur Michel Wurm, qui est la pharmacologie de sécurité du PL37. Les résultats étaient quand même suffisamment intéressants. La synthèse avait été bien mise au point par Marie-Claude Fournet-Zalewski et Hervé Porras. Et donc, on a fait la pharmacologie de sécurité classique et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de génotoxicité, pas d'effet de dépression respiratoire, pas de modification cardiovasculaire, pas d'effet indésirable comme la sédation qui est bien connue avec la morphine, pas de constipation également bien connue dans le cas de traitement chronique à la morphine, pas de tolérance, on vient de le voir, pas de vomissement chez le furet et le chien. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Bien simplement parce qu'il y a une grande différence entre l'administration exogène de morphine et l'administration d'un inhibiteur. Pourquoi ? Quand vous administrez par voie exogène, donc par voie intraveineuse, par exemple, de la morphine va aller stimuler tous les récepteurs, quelle que soit leur position dans le corps. Et même là où finalement il n'y aurait absolument pas besoin, si vous avez une douleur par exemple, ben, il faut les stimuler dans les régions où il y a un contrôle de la douleur, mais ce n'est pas la peine d'aller stimuler les récepteurs qui contrôlent la respiration. Mais malheureusement, cette morphine va aller un petit peu partout et si on augmente un peu la dose, bien, on peut avoir ces effets indésirables. Ça n'est pas du tout le cas avec les encéphalines, puisque les encéphalines vont être libérées, on l'a montré tout à l'heure, de manière phasique, c'est-à-dire dû à un stimulus, par exemple un stimulus nociceptif. Si on a un stimulus nociceptif, les encéphalines seront libérées et donc protégées par ces inhibiteurs dans les structures qui sont impliquées dans le contrôle de la douleur et pas dans les autres, et par conséquent, on n'aura pas d'effet secondaire. Donc, quel est le statut actuel de cette molécule donc, qui s'appelait PL37, qui s'appelle maintenant DBO0827. Donc, elle a été développée dans cette petite société qu'on a monté, si je puis dire, avec les personnes dont je parlais tout à l'heure, et il y a à peu près 7 ans. On a développé cette molécule en 2005, brevetée en 2006. On a eu l'autorisation de l'AFSAPS pour un essai en phase ascendante, en dose ascendante, pardon, chez l'homme, donc un essai de phase 1 en novembre 2008, et la licence a été cédée pratiquement immédiatement à une société suisse qui s'appelle des Biopharm en novembre 2008, et les essais de phase 1 vont démarrer maintenant. Bien entendu, je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'était une piste qui était évidemment très intéressante à suivre, et j'espère que les résultats seront à la hauteur de nos espérances. Alors, j'ai cité pratiquement toutes les personnes qui sont représentées ici, aussi bien pour la chimie, la biochimie que la pharmacologie, le docteur Michel Wurm que j'ai cité tout à l'heure, et un mot quand même des managers. Je me suis aperçu que quand on montait une petite société, c'était très important d'avoir des bons managers, et leur nom est ici, et puis évidemment, on a eu la chance d'avoir de très nombreuses collaborations. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Et je vous remercie pour votre attention.
Pour vous introduire les récepteurs couplés au protéine G, je vais reprendre un concept qui a été développé, proposé dans les années 80, où on voit ici que la transmission synaptique va, donc les neuromodulateurs ou neurotransmetteurs vont stimuler deux types de récepteurs. Les récepteurs canaux, le prototype étant le récepteur nicotinique, cher à Jean-Pierre Changeux, mais aussi des récepteurs du glutamate, les récepteurs NMDA, dont vous avez déjà entendu parler, qui sont centrales dans la transmission de la douleur au niveau de la moelle. Donc ces récepteurs canaux, bien entendu, vont transmettre le signal de manière très rapide, de l'ordre de la milliseconde, puisqu'il suffit, lorsque le neurotransmetteur se fixe sur cette protéine, d'un changement de conformation de la protéine pour laisser passer des ions dans un sens ou dans l'autre, modifier donc l'activité électrique du neurone et éventuellement générer des potentiels d'action ou inhiber la génération de potentiels d'action. Donc cette transmission rapide, c'est celle, bien entendu, que l'on met en œuvre la plupart du temps, lorsqu'on fait un mouvement, lorsqu'on parle, lorsqu'on écoute, lorsqu'on comprend. Mais en dehors de ces récepteurs ayant une transmission synaptique rapide de l'ordre de la milliseconde, vous avez beaucoup d'autres récepteurs, et c'est ceux-là qui vont nous intéresser aujourd'hui dans le cadre de la douleur, mais je voudrais vous les introduire dans un cadre un peu plus général. Vous avez beaucoup d'autres récepteurs qui sont des récepteurs, vous voyez, à 7 domaines transmembranaires, qui sont couplés aux protéines G, on verra ce que c'est, que sont ces protéines G. Et ces récepteurs ont médit des modulations de la transmission synaptique ou des transmissions synaptiques beaucoup plus lentes, de l'ordre de la seconde ou de la minute. Et donc, on peut se demander, évidemment, vous pouvez vous demander quels sont donc les événements du système nerveux central ou la physiologie importante qui peut être modulée de façon si lente dans le système nerveux central. Eh bien, évidemment, il y en a beaucoup. Le plus classique dont on peut parler, c'est par exemple la modulation des états de l'humeur, le fait que vous soyez déprimé ou pas déprimé, le fait que vous soyez anxieux ou pas anxieux, met en jeu ce type de récepteur, et ceci, évidemment, ne nécessite pas des transmissions synaptiques rapides. Ce sont des modulations lentes qui sont bien sûr aussi en jeu dans beaucoup de l'action, beaucoup de drogues, mais aussi, bien sûr, on va le voir, dans la modulation des douleurs chroniques ou des douleurs aiguës. Donc ces modulations, cette transmission synaptique lente ou cette modulation de la transmission synaptique lente, pourquoi elle est lente? Puisque ces récepteurs vont activer des protéines G, on verra ce que sont ces protéines tout de suite, et vont fabriquer de manière biochimique des messagers intracellulaires que vous connaissez probablement, l'AMP cyclique, l'inositol phosphate ou du calcium. Et ces seconds messagers, donc il faut les fabriquer, il faut les accumuler, ça prend du temps, vont activer ce qu'on appelle les protéines kinases, c'est-à-dire des protéines qui vont phosphoryler d'autres protéines, et ces protéines phosphorylées sont nombreuses, et ces protéines phosphorylées peuvent être des ions, et donc on va moduler évidemment l'activité électrique des neurones ou d'autres cellules, mais bien sûr ça peut être d'autres protéines qui vont modifier la transcription ou la signalisation générale. Donc ces récepteurs sont très importants. Il y en a beaucoup de différentes sortes. Alors, je disais que ces récepteurs sont très nombreux. Vous voyez que chez l'homme, avec les récepteurs olfactifs qui sont très nombreux, on en a à peu près 900. Chez la souris, il y en a à peu près 1300, dont 1000 sont des récepteurs aux odeurs. Vous voyez que les récepteurs aux odeurs sont très importants, bien sûr, chez les vertébrés et notamment, bien entendu, chez les rongeurs. Vous voyez que ces récepteurs en sont apparus très tôt au cours de l'évolution et on en trouve déjà chez la levure, donc chez les champignons. Et bien sûr, sur les nématodes, vous voyez, le nématode, il a déjà autant de récepteurs, ce qui représente quand même à peu près 2 à 3% de l'ensemble des gènes présents dans le génome de ces animaux. Donc ces récepteurs sont la cible majeure des médicaments. On peut dire que 30% des médicaments que vous prenez, que vous achetez chez le pharmacien, ciblent ce type de récepteurs. Et donc évidemment, ces récepteurs, on peut citer bien sûr les bêta-bloquants, les antihistaminiques, les antimigraines d'ailleurs. Je ne parlerai pas de la migraine ici, mais bien sûr les triptans que vous pouvez acheter, qui sont les seuls médicaments un peu efficaces pour la migraine, sur la douleur migraineuse, les triptans sont des molécules qui vont cibler un type de récepteur sérotonine dans le nerf trigémin. Voilà ces récepteurs, on les a présentés, et je voudrais juste donc rappeler un certain nombre de choses probablement qui ont été dites au cours de la journée, de la participation de ces récepteurs dans le contrôle d'un certain nombre de douleurs. Je commencerai par les douleurs inflammatoires et ensuite je parlerai des douleurs neuropathiques. Et en terminant mon exposé, je vous présenterai des résultats récents du laboratoire fait en collaboration avec Alain Chalier à Clermont-Ferrand, proposant éventuellement de moduler ces récepteurs d'une manière originale. Alors, ceci, vous l'avez vu, dans les douleurs inflammatoires, donc au cours de l'inflammation, on a recrutement d'un certain nombre de cellules qui vont libérer un certain nombre de substances, que ce soit la sérotonine, j'en ai parlé, bien sûr la bradykinine, des prostaglandines, des endothélines, et toute cette soupe inflammatoire qui vont sensibiliser ces fibres C à delta, vont les sensibiliser et donc vont créer une hyperalgie inflammatoire. C'est une hyperalgie inflammatoire périphérique, donc une sensibilisation périphérique dont vous avez déjà entendu parler. Comment les récepteurs couplés aux protéines agissent? Michel Azinski vous a bien sûr parlé de tous ces nocicepteurs qui vont reconnaître la chaleur, le froid, l'acide, etc. Et ces canaux sodiques qui vont transmettre l'activité donc, de ces neurones en générant des potentiels d'action. Eh bien, au cours de l'inflammation, je vous ai dit que cette soupe inflammatoire va libérer beaucoup de substances, comme la bradykinine, vous voyez ici, mais aussi l'ATP, mais aussi du glutamate qui vont activer ces récepteurs du glutamate dit métabotropique, la sérotonine libérée par les plaquettes, l'histamine, et ces récepteurs couplés aux protéines G stimulés par toute cette soupe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, tous ces récepteurs, je prends ici l'exemple de la bradykinine, la flèche est dans le mauvais sens, vont activer des protéines kinases, comme je vous ai dit, ici protéines kinase C ou protéines kinase A, qui vont phosphoryler ces nocicepteurs ou ces canaux sodiques. Donc, en fait, ce que font ces récepteurs couplés aux protéines G, c'est de modifier l'activité des nocicepteurs ou des canaux transmettant la douleur en les phosphorylant. Et vous savez que la phosphorylation, c'est l'événement majeur de modification de l'activité des protéines dans l'organisme. Et bien entendu, ces nocicepteurs, en étant phosphorylés, vont avoir un seuil d'activité plus bas et donc les décharges vont se produire beaucoup plus fréquemment et d'où la sensibilisation, d'où l'hyperalgie, voire l'allodynie, c'est-à-dire la génération de sensations douloureuses par des stimuli qui ne sont absolument pas douloureux. Donc voilà comment travaillent ces récepteurs. Ils sont bien sûr très importants au niveau périphérique. On a parlé aussi d'une sensibilisation au niveau de la moelle. Alors, vous voyez ici les fibres C qui arrivent, hein, donc ce que je vous ai décrit, c'était là-haut. Les fibres C qui arrivent au niveau de la corne dorsale de la moelle, ces fibres C vont libérer du glutamate. Ce glutamate, qui est le neurotransmetteur majeur de la nociception au niveau de la moelle, va activer ces récepteurs NMDA du glutamate, canaux, récepteurs canaux. Donc là, bien sûr, la transmission douloureuse va être rapide grâce à ces canaux ioniques, ces récepteurs glutamate ioniques. Mais comme vous le voyez ici, vous avez aussi, au niveau de ce neurone postsynaptique, des récepteurs métabotropiques ici du glutamate, métabotropiques glutamate, qui vont activer des protéines kinasées, lesquelles protéines kinasées vont phosphoryler ces récepteurs canaux. Et là aussi, ici, cette phosphorylation, c'est sur des récepteurs canaux. Tout à l'heure, c'était sur des nocicepteurs périphériques. Bien entendu, on peut avoir des états de sensibilisation supérieure avec l'intervention d'autres récepteurs métabotropiques couplés aux protéines G comme les récepteurs des prostaglandines. Et tout ça va être modifié par phosphorylation et sensibilisé à la douleur. On a déjà parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé du fait que si la douleur devient chronique permanente, des neurones GABA inhibiteurs, cette fois-ci, vont être complètement vont être supprimés, et des afférences glutamatergiques additionnelles vont se mettre en place. Donc vous voyez que ces récepteurs, alors bien entendu ici vous voyez les récepteurs mu dont vous avez parlé, c'est pas très, le dessin est un peu petit, ces récepteurs mu qui sont aussi des récepteurs couplés aux protéines G et qui là vont bien sûr bloquer la libération de glutamate et donc avoir un effet nociceptif. Donc ces récepteurs métabotropiques couplés aux protéines G sont des modulateurs des systèmes qui existent et dont vous avez entendu parler aujourd'hui. Donc évidemment, on peut imaginer que bloquer ces récepteurs peut être bien sûr bénéfique pour traiter un certain nombre de douleurs chroniques. Alors, je vais juste donner un exemple un peu plus compliqué montrant que la modification de ce qui se passe au cours de douleurs chroniques est assez subtile. C'était un travail qui a été publié par Christophe Altier, qui avait fait sa thèse de laboratoire avec Gérald Zamponi au Canada, et qui montre la complexité de cette modification de la transmission au cours des douleurs chroniques. Donc ici, vous avez un canal calcique, donc Michel vous a parlé, qui va donc faire rentrer du calcium pour permettre la libération du glutamate. On est toujours au même niveau de la moelle, hein, donc la transmission douloureuse par le glutamate ou la substance P. Et vous avez la dynorphine, qui est un opiacé endogène, dont vous a pas parlé Bernard Roch, qui est un autre opiacé endogène, et qui va activer des récepteurs donc opioïdes pour bloquer les canaux calciques. Donc vous voyez que cette dynorphine, dans un état normal, est antalgique, elle va bloquer l'entrée du calcium et donc bloquer la transmission douloureuse. Maintenant, dans une douleur chronique, la concentration de dynorphine est augmentée énormément et cette dynorphine maintenant va toujours stimuler le récepteur opiacé pour bloquer la transmission, mais maintenant cette dynorphine va stimuler des récepteurs bradykinines et là va au contraire augmenter l'activité de canaux calciques. Et donc, en fait, vous voyez que la dynorphine peut être antalgique dans une situation normale et hyperalgique dans une situation de douleur chronique. D'où la complexité, bien sûr, de cette plasticité, de cette complète modulation, reformulation, si on peut dire, de la transmission au cours des douleurs chroniques. Voilà. Maintenant, je voudrais me concentrer un tout petit peu sur les douleurs neuropathiques. Donc les neuropathies, vous en avez entendu parler, je ne vais pas insister sur le fait que la définition actuelle est celle-ci, est maintenant définie comme une conséquence directe d'une lésion ou d'une pathologie affectant le système somatosensoriel, que la douleur neuropathique, bien sûr, représente bien sûr des affections absolument très nombreuses dans la population, que bien sûr ça survient dans beaucoup d'événements, que ce soit bien sûr le diabète, on reviendra sur les douleurs neuropathiques diabétiques, mais aussi bien sûr suite à l'utilisation de substances toxiques, de substances bien sûr anticancéreuses, infectieuses, traumatiques, etc. Le problème des douleurs neuropathiques, on l'a déjà dit, c'est que les traitements sont très peu efficaces et la morphine est relativement inefficace dans les douleurs neuropathiques. Première intention, ce qu'on utilise, c'est ou des antiépileptiques, anticonvulsivants, probablement pour l'oxygénation sur les canaux sodiques, qui sont importants, bien sûr, dans cette transmission, mais également les antidépresseurs. Les antidépresseurs de type imipraminique, c'est-à-dire des antidépresseurs qui vont bloquer la recapture d'adrénaline, de noradrénaline, et en bloquant la recapture d'adrénaline ou de noradrénaline, vont augmenter la concentration de ces neurotransmetteurs et stimuler des récepteurs couplés aux protéines G de type alpha-adrénergique qui sont antinociceptifs. On pourrait utiliser, puisque je vous ai déjà dit que la sérotonine est très importante pour contrôler les douleurs, on pourrait utiliser des antidépresseurs de type inhibiteur de la recapture de sérotonine, dont le plus connu est la fluoxétine, le Prozac. Cependant, on constate que ces antidépresseurs qui bloquent la recapture de sérotonine sont très peu efficaces dans les neurones neuropathiques et pourtant ils ont beaucoup moins d'effets secondaires généraux que les inhibiteurs de recapture de noradrénaline. Et donc nous sommes penchés, et vous le verrez tout à l'heure à la fin, sur cette question de savoir pourquoi ces inhibiteurs de la capture de sérotonine sont peu efficaces alors qu'on sait que la sérotonine est assez efficace, et on le verra, pour contrôler la transmission douloureuse. Donc je ne reviens pas sur les douleurs neuropathiques et les mécanismes. Michel Lazinski en a parlé, surexpression des canaux sodiques notamment. Alors, pour contrôler ces douleurs, il y a un système dont on a peu parlé aujourd'hui et qui a eu pourtant et qui est toujours très important pour contrôler la douleur. Ce sont le contrôle central des voies descendantes centrales sur la transmission douloureuse au niveau de la corne dorsale de la moelle. Ici, nous avons les fibres A, les fibres C ou A delta, donc les fibres sensorielles qui conduisent à la douleur, relais au niveau de la moelle, dont on a parlé, et transmission centrale. Eh bien, il y a aussi des voies descendantes qui vont contrôler ces systèmes de transmission de la douleur. Une de ces voies, c'est la sérotonine. Et la difficulté, c'est que, comme vous le voyez ici, il y a des voies descendantes inhibitrices de la douleur et des voies descendantes facilitatrices de la douleur. Et donc, évidemment, ce n'est pas très facile de distinguer ces deux-là. Une façon de distinguer, c'est que, vous voyez ici, les voies descendantes de contrôle de la douleur par la sérotonine utilisent un récepteur dont on va parler ici, qui est le récepteur 5-HT2A, qui va stimuler la libération d'encéphaline, dont on a parlé, et de GABA. Et bien sûr, ces deux neurotransmetteurs sont inhibiteurs de la transmission douloureuse. Donc si on pouvait stimuler ces récepteurs spécifiquement, on pourrait avoir, bien sûr, un contrôle intéressant de la douleur. Ce qui se passe probablement, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que dans les douleurs neuropathiques, et notamment dans la douleur neuropathique de type diabétique, ces récepteurs, l'activité de ces récepteurs est altérée. Et je vais essayer de vous montrer, pourquoi l'activité de ces récepteurs est altérée dans la douleur neuropathique, diabétique. Alors, nous allons donc parler de la douleur neuropathique chez le rat diabétique. Donc, on rend le rat diabétique avec la streptozotocine, et ces rats donc, deviennent diabétiques, et bien sûr, ils vont être hypersensibles à la douleur. Vous voyez ici ce test de douleur où vous faites une pression que vous pouvez calibrer sur la patte et vous regardez le seuil de vocalisation du rat, c'est-à-dire le moment où il crie qu'il a mal. Bon, il faut faire vite. Et donc, évidemment, ce seuil va être différent si le rat souffre de douleurs neuropathiques, ce seuil sera abaissé. Si vous injectez au niveau donc spinal ce produit, qui est un dérivé de la sérotonine, qui va activer ce récepteur 5-HT2A dont je vous ai parlé, vous voyez que vous avez un effet antalgique chez le rat normal, alors que chez le rat diabétique, le seuil est abaissé, mais que l'injection du produit n'a absolument pas d'effet. Donc il semble donc que ce rat diabétique soit insensible à ce composé qui va stimuler ses récepteurs de la sérotonine de type 2A. Ceci peut être vérifié si vous injectez de la sérotonine au niveau spinal. Vous voyez que les effets antalgiques de la sérotonine se manifestent pour des doses chez le rat normal de l'ordre de 1 microgramme intrathécal, alors que il vous faudra 10 microgrammes, voire 100 microgrammes, pour avoir un effet chez le rat diabétique. Donc le rat diabétique a une hyposensibilité de ses récepteurs tout à fait importante. Et donc pourquoi ces récepteurs sont devenus hyposensibles chez le rat diabétique? Alors c'est là qu'une idée nous est venue, que peut-être ces récepteurs étaient hyposensibles parce que les récepteurs couplés aux protéines G, c'est toute une machinerie biochimique, comme vous pouvez vous en douter, et cette machinerie va importer les récepteurs à la membrane ou au contraire faire rentrer les récepteurs dans la cellule. Et il y a donc toute une cinétique d'apparition des récepteurs à la membrane, évidemment de stabilisation des récepteurs à la membrane. Et si cette stabilisation est affectée, la sensibilité des récepteurs est altérée puisque le récepteur va se retrouver à l'intérieur de la cellule et non plus à la surface de la cellule. Et pourquoi on dit ça? Parce que dans le laboratoire, nous avons beaucoup travaillé sur le fait que ces récepteurs dont je vous ai parlé ne sont pas des récepteurs isolés dans la membrane, mais sont en interaction avec tout un tas d'autres protéines qu'on appelle le réceptosome, que nous avons caractérisé pour beaucoup de ces récepteurs, et qui sont tout un tas de protéines qui s'interagissent avec ces récepteurs et modulent l'activité de ces récepteurs dans beaucoup de situations que je n'ai bien sûr pas le temps d'aborder ici, mais notamment affecte le transit des récepteurs à la membrane. Donc, si on regarde le récepteur 5-HT2A qui nous intéresse, vous voyez qu'il y a ici une protéine qui est très connue, qui est PSD95, qui va contrôler l'apparition des récepteurs à la membrane. Et qu'est-ce qu'on constate chez le rat diabétique? On constate que cette protéine PSD95, vous voyez ici, ça c'est le rat normal, vous voyez ici un blot où on regarde la concentration de cette protéine, le rat normal et le rat diabétique. Vous voyez que cette protéine est beaucoup plus importante chez le rat diabétique que chez le rat normal. Évidemment, cette augmentation de cette concentration va faire probablement, et on le verra, que ce récepteur va rester à l'intérieur de la cellule et donc va être hyposensible chez le rat diabétique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est essayer de déconnecter, puisqu'on a plus de cette protéine PSD95, ce qu'on peut faire, c'est essayer de déconnecter ce récepteur de cette protéine de manière à stabiliser le récepteur à la membrane et l'empêcher d'être internalisé dans la cellule. Comment on peut faire ça? On peut faire ça en utilisant des peptides, qui sont ici des peptides dérivés de la protéine TAD du HIV, mais enfin qui sont des protéines, qui sont des peptides polybasiques, vous voyez, riches en arginine et en lysine. Et ces peptides ont la capacité de pénétrer dans les cellules. Et donc, vous pouvez les injecter à la périphérie ou vous pouvez les injecter intrathécal et ils vont rentrer dans les cellules. Si vous associez ces peptides qui rentrent dans les cellules avec une séquence ici du récepteur qui est indispensable à l'interaction avec cette protéine, vous allez déconnecter le récepteur de cette protéine et vous regardez qu'est-ce qui peut se passer. Et bon, la prédiction, c'est qu'il y aura plus de récepteurs à la membrane et donc la sérotonine deviendra antalgique. Donc, on fait ça, je passe quelques détails de la manip. Et vous voyez ici sur le rat diabétique, vous voyez, le rat diabétique devient hyperalgique. D'accord, il va répondre à une pression sur la patte plus faible. Et si vous injectez ce peptide qui va déconnecter le récepteur de ces protéines, vous voyez que vous allez complètement réverser l'effet hyperalgique chez le rat diabétique. Si vous injectez un analogue ou si vous injectez un composé, qu'importe, qui bloque le récepteur, vous n'avez plus d'effet. Donc, déconnecter ce récepteur de ces protéines d'association va réverser l'hyperalgie que vous avez chez le rat diabétique. Bon, alors je passe sur un certain nombre de contrôles, peut-être pas très important ici, et je viens à cette expérience, qui est l'expérience quand même la plus intéressante finalement, c'est le fait que si vous associez cette déconnexion du récepteur avec un traitement antidépresseur de type inhibiteur de la sérotonine, forcément vous allez bloquer la recapture de sérotonine, et bien entendu vous allez mettre plus de sérotonine dans la synapse, et en plus, vous allez resensibiliser le récepteur en même temps, puisque vous l'avez déconnecté de son réseau, et vous attendez, bien sûr, un effet anti-hyperalgique important. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous avez l'hyperalgie chez le rat diabétique, vous avez l'effet du peptide que vous ne voyez peut-être pas bien, qui est ici, que je vous ai déjà montré. Vous avez l'effet de l'inhibiteur de recapture de sérotonine lui-même, qui est un petit effet. Mais si vous mettez les deux, inhibiteur de recapture de la sérotonine plus déconnexion du récepteur avec son réseau, eh bien, alors là, vous avez un effet hyperalgique et vous remontez pratiquement au-dessus des contrôles. Et surtout, vous avez un effet persistant très important. Donc, c'est fini. Bon, c'est fini. Simplement, donc, je voulais vous dire, donc, en conclusion, c'est que effectivement, vous pouvez moduler ces interactions de ces récepteurs couplés aux protéines J avec leurs protéines d'association pour moduler les réponses de ces récepteurs, notamment les réponses hyperalgiques. Alors, je vais juste aller à une dernière diapo, parce qu'elle est importante, qui est après les conclusions. Voilà un papier récent qui vient d'être publié donc, en 2008 par le groupe de Salter, qui montre exactement la même chose, mais cette fois-ci, pour le récepteur NMDA, le récepteur crucial de la transmission de la douleur, si vous bloquez ce récepteur, vous n'aurez plus de douleur. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas bloquer le récepteur NMDA parce que ce récepteur NMDA est trop important pour l'ensemble de l'activité du système nerveux. Donc, c'est impossible de bloquer ce récepteur pour bloquer la douleur. Si on pouvait le faire, bien sûr, on n'aurait plus de douleur, mais on n'aurait plus rien d'autre. Donc, c'est un peu embêtant. Par contre, ce récepteur est aussi associé à d'autres protéines, qui sont d'ailleurs des kinases. Et le groupe de Salter a montré, par utilisant la même une approche très similaire à la nôtre, que si vous déconnectez ce récepteur aussi avec d'autres protéines d'association, vous avez aussi des effets anti-hyperalgiques très importants. Donc, en conclusion, une autre voie d'approche pour moduler la douleur, et non pas d'inhiber ces récepteurs ou d'autres récepteurs, mais d'essayer de moduler les réseaux de protéines internes aux neurones qui contrôlent l'accessibilité de ces récepteurs à la membrane.
C'était Joël Bockaert, membre de l'Académie des sciences, également membre de l'Institut de génomique fonctionnelle à l'Université de Montpellier. Sa communication portait sur les récepteurs couplés aux protéines G, sorte de modulateur des douleurs chroniques. Le précédait Bernard Rock, également membre de l'Académie des sciences et puis également professeur émérite de l'Université Paris-Descartes. Il s'intéressait pour sa part à la régulation et au contrôle de la nociception par les systèmes opioïdes. Restez à l'écoute de Canal Academy et téléchargez les trois autres volets de cette séance consacrée à la douleur. Tout d'abord, comprendre la douleur pour la maîtriser, en compagnie de Bernard Calvino, neurophysiologiste, et Michel Lazdunski, spécialiste mondial des canaux ioniques, membre de l'Académie des sciences. Deuxième volet consacré à la douleur, tout n'est pas psychosomatique, avec Jean de Sety, neurobiologiste, et Bernard Laurent, neurophysiologiste. Enfin, traiter la douleur de l'effet placebo à la stimulation transcrânienne, en compagnie de Jean-Pascal Lefaucheur, physiologiste, et Jean Cambier, neurologiste, membre de l'Académie nationale de médecine. Toutes ces émissions sont en libre écoute et libre téléchargement. Vous les trouverez dans notre onglet émissions en séance, rubrique Académie des sciences. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.